Radio Okapi. Okapi.
Les titres ce matin, alors que s'achève aujourd'hui le dépôt des candidatures des gouverneurs pour les nouvelles provinces issues du Kassai oriental, des formulaires retirés, aucune candidature n'est déposée jusque-là. La CENI déplore la tendance à se précipiter à la dernière minute. Signature à Mbandaka d'un partenariat entre le gouverneur intérimaire et des bailleurs de fonds américains. Objectif affiché, financer des projets de développement dans les domaines les plus divers en faveur des 5 nouvelles provinces issues de l'Équateur. Affaire Tchébéa, la haute cour militaire de Kinshasa rejette la requête de la partie civile de recueillir des renseignements sur Paul Mouilambé au Sénégal et s'est dit suffisamment éclairé pour entamer les plaidoiries le 30 juillet. Bonjour à tous, c'est un principe aujourd'hui, mardi, que se termine le dépôt des candidatures des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les bureaux de réception et de traitement de la CENI à travers la RDC. Mais rien ne semble bouger du côté de 3 nouvelles provinces issues de l'éclatement du Kassai oriental. À Mbujimaï, une correspondance de Chris Moukand.
Le bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI Kassai Oriental a décerné 3 formulaires, 2 aux partis politiques et 1 à un indépendant. Jusque-là, aucun dépôt de candidature enregistré. Toutefois, dans l'opinion, certains noms de quelques candidats potentiels sont avancés. Outre le gouverneur sortant qui a déjà annoncé son intention de se représenter, l'on parle d'un député provincial qui solliciterait le soutien de ses collègues députés. Il y a également un autre député national et un ancien dirigeant de la minière de Bakwanga qui serait en train de lorgner le fauteuil de gouverneur de la province du Kassai Oriental, nouvelle formule. Dans la Lomami, on en est encore au partage du gâteau. Quel territoire devrait occuper le gouvernorat et à quel autre donner l'assemblée provinciale? Ici, le BRTC n'a encore livré aucun formulaire. Même situation dans la province du Sankourou. Le secrétaire exécutif de la CENI, Sankourou, que nous avons joint, confirme que le bureau de réception et de traitement des candidatures est opérationnel depuis vendredi dernier, mais il n'y a aucun mouvement. L'on pense que tout va se décider dans les heures qui suivent avec l'arrivée au complet de tous les députés à Lusambo. Dans les milieux de la CENI, on déplore la tendance à toujours se présenter à la dernière minute. Mbujimaï, Chris Mukonde, Radio.
Entre-temps, les choses s'accélèrent dans les 5 nouvelles provinces issues de l'Équateur. Elles doivent mettre sur pied un cadre de concertation permanent pour bénéficier de projets d'intérêt commun. C'est ce qui ressort en tout cas du partenariat signé le week-end à Mbandaka entre le gouverneur intérimaire et des bailleurs de fonds américains conduits par la sénatrice James Donzella. Ce partenariat qui a été signé donc privilégie le financement des projets dans les domaines de l'agriculture, l'environnement, le transport, les infrastructures, l'énergie et la pêche. Face à la scission de cette province du pays, Sébastien Impeto explique le mécanisme d'application et les bénéfices pour chaque partie. Il est au micro de Paul Richard Malengela.
Nous sommes allés nous-mêmes aux États-Unis, nous avons parlé de la carte postale de l'Équateur. À ce moment, l'Équateur était indivisible. Aujourd'hui, que les amis américains sont venus, ils se sont retrouvés devant une nouvelle réalité. Il va de soi qu'il faut mettre une plateforme qui pourra désormais faire le suivi de tout ce que nous avons donné comme projet, qui devra nécessairement concerner les 5 nouvelles provinces. Nous avons à cet effet signé un document qui puisse nous orienter dans un cadre de concertation permanent, en sorte que quand les projets seront dans la phase d'exécution, qu'on puisse pas tergiverser, qu'on puisse orienter là où nous pensons que ça peut bien se faire. Et donc, on va regarder avec nos amis ce qu'ils apportent et ce que nous donnons. C'est dans ce partenariat public-privé que nous allons évoluer, en sorte que toutes les parties soient mises en confiance et que tout le monde gagne.
À l'actualité sur Radio Capi s'ajoute aussi l'ouverture hier des premières sessions extraordinaires des nouveaux organes délibérants issus de la province orientale, notamment à La Tchopo, à Nitouri, dans le Bas et au Touélé. À cette occasion, les bureaux provisoires ont été installés par les chefs des divisions uniques qui ont reçu mandat de présider ces séances. Explication à Kisangani d'André Kitenge.
À Kisangani, chef-lieu de la nouvelle province de La Tchopo, la session extraordinaire a été présidée par le chef de division unique. Après son discours d'ouverture, ce dernier a installé le bureau provisoire de ce nouvel organe délibérant. Il sera présidé par le doyen d'âge des députés provinciaux Jean-Michel Bondekwe, assisté de 2 jeunes. Dans son discours, le président du bureau provisoire de l'organe délibérant estime que cette session extraordinaire constitue une étape importante pour le développement de la nouvelle province de La Tchopo et le bien-être de la population. situation. Il a également exprimé sa satisfaction tout en expliquant la mission dévolue à ce bureau provisoire, à savoir la validation de pouvoir, l'élaboration et l'adoption du règlement d'ordre intérieur et l'élection du bureau définitif. Ailleurs, notamment dans les provinces du Bas et Haut-Ouélé, les bureaux provisoires ont été également installés par les chefs des divisions uniques. Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Dans l'agenda économique à présent, la SNCC a réceptionné hier lundi à Lubumbashi 18 locomotives neuves achetées par le gouvernement de la RDC avec le financement de la Banque mondiale. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État lui-même. Pour l'occasion, le ministre des Transports et Voies de Communication et le directeur général de la SNCC ont rappelé l'historique de cette entreprise avant de parler du coût de cette acquisition. Avec nous pour en parler, Daniel Tambizoni.
Il ressort des différents discours que la dernière acquisition des machines neuves par la SNCC remonte à 1976. Sylvestre Ilungailu Kamba, le DG de la SNCC, dit combien ces engins ont coûté.
18 locomotives sur financement du projet de transport multimodal pour un montant de 31 517 130 dollars américains et 20 locomotives neuves sur financement du Trésor de la République démocratique du Congo pour un montant de 33 756 294 dollars.
Le ministre des Transports a quant à lui reconnu le désengagement de l'État qui a conduit au déficit de la SNCC et voilà plus de 40 ans après, les chemins de fer peuvent reprendre leur place de choix.
Comme vous le constatez, en dépit du rôle central que le chemin de fer devrait jouer pour l'économie d'un vaste pays comme le nôtre, cette entreprise a longtemps souffert d'un désengagement de l'État. Des engagements qui a perturbé durant des décennies jusqu'au début des années 2000 avec comme clé de voûte un déficit d'investissement de tous ordres.
Justin Kalumba a recommandé un bon usage de nouvelles acquisitions.
Faisant d'une pierre deux coups, Joseph Kabila Kabange a donné en même temps le coup d'envoi des travaux d'agrandissement et de modernisation de la route Kasumbalesa et de la voirie de Lubumbashi. Il est 7h07 à Kinshasa. Justice à présent avec l'affaire Floribert Chebeya. La haute cour militaire de Kinshasa a rejeté hier la requête de la partie civile de recueillir des renseignements sur Paul Mouilamboué au Sénégal. Les avocats de la partie de la famille du défunt ont fait cette demande au cours du procès en appel de l'ancien président de l'ONG La Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme, VSV, qui avait été assassiné en juin 2010. La haute cour militaire de Kinshasa a décidé donc de juger les accusés présents à la prison de Makala. Elle estime qu'elle est suffisamment éclairée maintenant pour entamer les plaidoiries avec toutes les parties au procès à la prochaine audience. Le compte-rendu d'Askenzi Batayoro.
Pour le collectif des avocats de Chebeya, la haute cour militaire ne devrait pas se précipiter pour entamer la plaidoirie, car d'après leur entendement, à l'étape de l'instruction du dossier, il y a encore de renseignements utiles à fournir pour éclairer la haute cour sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Maître Mwamba.
L'ancien chauffeur du colonel Mokalaï dit clairement que une partie des policiers exécutants a été mutée à Lubumbashi par le général John Numbi. La haute cour avait même promis qu'elle devait tout faire afin d'avoir la déposition de M. Mouilamboué. Alors, qu'on fasse venir ces policiers-là, qu'ils soient entendus, parce que nous sommes dans la recherche de la vérité.
Pour la défense, il n'est pas permis de se fier au témoignage d'un prévenu déjà condamné, Maître Didier Dimina, avocat du colonel Mukalaï.
Paul Mouilamboué, c'est un fugitif condamné au premier degré. La cour ne peut pas se déplacer pour aller entendre un prévenu qui est déjà condamné, ça ne se fait pas.
Il est clair, la haute cour militaire a décidé de juger uniquement les accusés présents à la prison centrale de Makala en opérant une disjonction de poursuite entre eux et ceux qui sont en fuite. La prochaine audience fixée au 30 juillet 2015 va démarrer avec les plaidoiries de toutes les parties au procès.
Merci à Askenzi Gataero. Avant de rendre l'antenne, parlons maintenant de la formation sur les notions de base à l'intention des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Les travaux se tiennent en ce moment à Kisantu dans le Congo central. La journée d'hier a été consacrée aux interventions des experts et professeurs d'université. Les grandes lignes des exposés avec Jean-Pierre Elali Ikoko qui nous appelle de Kisantu.
Des exposés ont éclairé la lanterne des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. D'abord, Julien Attakla, Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'est attardé sur les définitions, les contextes, les principes, les dilemmes ainsi que les difficultés en matière de monitoring des droits de l'homme. Le professeur Nyabirungu Mwene Songa de l'UNITIM s'est penché quant à lui sur le droit politique civil et collectif en se basant sur les instruments internationaux et les stratégies de protection de ces droits de l'homme en République démocratique du Congo particulièrement et dans le monde en général. D'autres exposés ont tourné autour des droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA et des personnes âgées. Le programme de ce mardi prévoit d'autres interventions d'experts, comme celles liées à l'intégration de la dimension genre dans le travail de la CNDH et surtout l'évaluation des travaux des trois premières journées. Becky Santou dans le Congo central, Jean-Pierre Elali Koko, Radio Capital.
Fin de ce journal, merci d'avoir écouté à Kinshasa, il est 7h10, Narcisse Baya, c'est à vous.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.